premier épisode d'une agréable conversation avec le tout nouveau président de MEH sur le joyeux monde de la typographie, avant l'arrivée du Mac.
Oui, non?
Salut Daniel, c'est Normand.
Salut.
Fait que, une grosse nouvelle pour toi?
Ben, une grosse nouvelle, c'est pressenti depuis quand même un bout de temps.
Ah ouais, hein?
Qu'il y avait un gros volet financier d'attaché à ça. Au-delà du changement de titre, bien évidemment, il y avait le rachat des actions de Yves Langely qui, lui, était majoritaire.
Ouais.
Fait que c'était pas une mince transaction, là.
C'est sûr. Fait combien de temps t'es là?
Chez MH, je suis là depuis 1981.
Ah ouais, hein?
Fait que ça fait 35 ans.
Quand même. Tu travaillais-tu ailleurs avant de commencer chez MEH?
Non, moi, j'ai commencé dans le métier complètement par erreur. Mon chemin de carrière, ça n'alignait pas comme ça pantoute. Ce que je voulais faire, je voulais étudier en photographie.
Okay.
Je voulais devenir photographe. Puis, évidemment, dans les cégeps privés au Québec, les disponibilités en photographie étaient super contingenté. Malheureusement, j'avais pas les notes pour me classer genre des 20 meilleurs au Québec. Tu faisais la demande. Donc, je me suis retrouvé en cinéma au cégep à m'emmerder. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, okay, photographie, ça marche pas. Je me suis retrouvé en cinéma par... Faut que je fasse de quoi, là?
Étais-tu à Saint-Laurent?
Non, j'étais à Montmorency.
OK. Moi, j'ai fait le cinéma à Saint-Laurent.
OK. Non, mais j'ai fait une session.
OK.
Pour réaliser rapidement que j'allais là à reculons.
Ah, voyons.
Fait que je me suis dit, regarde, je vais travailler un an, ramasser de l'argent pour me payer des cours, dans le fond, des études en photographie au Collège Sarrette.
Ah, oui.
À l'époque, qui offrait le cours. Puis bon, moi, j'étais autonome, là, mes parents n'avaient pas la. De trois gars dans la maison, il n'y avait pas les moyens. Ils nous envoyaient dans des écoles privées. Puis
ils
nous aidaient comme ils pouvaient, mais c'était pas. Il fallait que je ramasse mon argent. Fait que j'avais à l'époque un de mes voisins, Hubert Villeneuve, qui était propriétaire d'Avant-Garde Typographie. Je sais pas si ça dit quoi.
Non, ça me dit rien.
Pas de ça. Écoute, j'étais le voir. J'ai dit, écoute, moi, je veux travailler. Là, j'ai un an devant moi où je veux me ramasser de l'argent, puis j'ai commencé à me messager dans une boîte de typographie, parce qu'à l'époque, évidemment, tout était analogue, puis on devait ramasser les jobs, ramasser les épreuves, livrer les épreuves, le client notait les corrections, il appelait le contremaître, okay, je t'ai mis correction par écrit, il fallait ramasser. Donc, moi, je faisais à run au centre-ville, parce que tous les clients étaient concentrés à distance de marche.
Oui.
Donc, je marchais à la ville...
Jouer. Jour après jour.
7-8 heures par jour. Fait que, ça a été un peu. Puis, écoute, j'ai réalisé qu'à cette époque-là, il y avait quand même une bonne partie du travail de typographe. Dès qu'on touchait le moindrement à une certaine mise en page, même les systèmes de typographie, ils ne réussissaient pas à faire les titres, les typos à toutes les grandeurs voulues. Fait qu'il y avait beaucoup de travail manuel. Une grande partie de ce travail manuel-là était fait en chambre noire, avec des caméras, des snap cameras, des caméras fixes, qui faisaient des agrandissements d'artwork. Ça faisait pas de couleurs, ça faisait du noir et blanc.
Okay.
Puis je me suis retrouvé en contact un peu avec ce que je souhaitais faire. Tu rentrais dans une shop de typographie, ça sentait le développeur, puis le fixeur, ça sentait la chambre noire.
Ah oh ouais, c'est vrai.
Puis, j'ai comme un peu pris goût à ça. Et puis, malheureusement, chez Avant-Garde, il y avait comme. J'étais pas perçu comme un candidat pour de l'avancement. J'étais un excellent messager. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on va faire un bon messager pour mettre peut-être un pas bon dans la chambre noire. Fait que. Au bout de 7-8 mois, mon contremaître, lui, est passé de chez Avant-Garde à chez MEH Typographie. Puis lui, il Lui, sachant que moi, je cherchais quand même de l'avancement, parce que ça faisait déjà un an que j'étais là, puis j'avais comme pris goût au métier. Je m'éloignais un peu de mon projet de retourner à l'école, parce que j'avais beaucoup de plaisir au travail. Il m'a appelé. Il dit, écoute, on a un poste chez MEH. C'est pour travailler, on appelle ça, dans le shop, là, en dedans. Tu vas être, en réalité, tu vas gérer les imprimantes. À cette époque-là, c'était des imprimantes qui imprimaient sur du film. Tu fais ma base d'argent, comme la pellicule photo, qui imprimait la typographie là-dessus. Fait que ça m'a donné une chance un peu de goûter au métier. C'est un métier à laquelle j'ai pris goût, parce que bon, j'avais toutes mes études au secondaire, tu sais, j'essayais toujours de faire le moins de sciences possible, de plus d'un art. Il y avait un cours qui était art et communication, on faisait des films d'animation, on faisait du design graphique, c'était très rudimentaire, c'était au secondaire. Là. Mm-hmm. Fait que je me suis retrouvé dans ce monde-là, mais au niveau professionnel, j'ai vu énormément de potentiel à m'épanouir. Tu sais, j'ai réalisé que j'avais peut-être un côté artistique, mais technique. J'ai eu la chance d'apprendre avec des experts en ville là, qui dans les 3 années qui ont suivi, j'ai rapidement traversé de l'autre côté de l'atelier, où le travail était plus manuel et où on utilisait plus le travail de caméra, le travail, on faisait de la distorsion sur de la typographie, parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre là, que tout était fait manuellement, là, les systèmes, bien que les systèmes étaient à la fine pointe, à cette époque-là, là, c'était très limité en comparaison avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Là. Si un client voulait un petit peu en hotline, mais je veux dire, ça ne se faisait pas. Là. C'était pas disponible, il fallait la fabriquer. Évidemment, il fallait la fabriquer à un niveau de reproduction qui était ultra précis. Même chose rapidement, là, n'importe tous les titres qui excédaient 36 points ne pouvaient pas être faits directement sur la photocomposeuse. Ça pouvait être fait là-dessus, mais après ça, c'était agrandi par caméra, mais là, souvent, l'espacement entre les lettres, la finesse typographique était plus là. Parce que le système ne contrôlait pas ça. Donc, on avait des systèmes carrément manuels où il y avait des alphabets sur des espèces de bandeaux de pellicules photo qui servaient à exposer lettre par lettre un type que tu composais dans une machine là, qui était un bijou d'ingénierie, mais c'était totalement manuel. On espaçait les lettres manuellement. Là, dépendamment du goût du client. Là, ça allait de très serré à cette époque-là, on faisait beaucoup de super pour la télévision. Okay. Parce qu'on appelait ça l'espacement de TV super. Il fallait s'y connaître, il fallait être très, très, très précis. Puis évidemment, à cette étape-là, mon projet de retourner à l'école avait été oublié. Là. J'avais coûté à l'argent aussi. À cette époque-là, la ville fleurissait d'agents. Les comptes principaux étaient à Montréal.
Ouais.
MEH est en train de faire un virage parce que MEH, j'ai commencé chez Avant-Garde, après ça je suis allé chez MEH. Avant-Garde était la maison de typographie des agences francophones émergentes. C'est-à-dire que MEH, à la base, avait des propriétaires anglophones et desservait la grande majorité des agences à Montréal qui étaient anglophones.
Les Walter,
Edmundson, ils étaient tous à Montréal. Là. Sauf que Peter Marsh, le président de l'époque, voyait le virage là, avec les BCP qui arrivaient, les publicités Martin, les cossettes. Il a pris un virage où il s'est mis à engager des représentants sur la route francophones pour développer ce marché-là, voyant bien que l'ère de simplement adapter les pubs en anglaise achevait. Et que les agences de Toronto basées à Montréal perdaient beaucoup de clients. Fait que ça, c'est arrivé à peu près en même temps où moi, je me suis retrouvé dans une situation où, après 3 ans, j'avais atteint le statut, si on veut, de paillon chez MEH, qui est un terme un peu... un terme de syndicat, mais malgré que MEH n'a jamais été syndiqué. Ça veut dire que tu étais rendu plein salaire, que tu étais rendu qualifié. puis en même temps, ça mettait la barre des attentes salariales. Un compagnon, ça coûte tant. Comme on était ouvert 24 heures sur 24 à l'époque, avec trois quarts de travail, ben, mon contremaître de jour n'avait plus d'excuses là, pour me garder avec lui de jour. Fait que, comme il y avait un gars de soir qui souhaitait s'en aller de jour, ou un gars de nuit qui souhaitait s'en aller de soir, mon option à moi, la seule option, c'était « tu vas aller travailler de nuit ». Ben, là, j'ai dit non, ça, je peux le faire pour te remplacer. Ça. Puis je le faisais l'été. Mais j'ai dit non, je n'irai pas travailler de nuit. Au même moment, il y a le vice-président de l'époque qui prenait sa retraite, qui ouvrait, il y avait un effet domino, que ça ouvrait un poste aux ventes. Donc, ça faisait déjà comme 4 ans qu'il avait l'entreprise. Je me suis dit, et j'aimais beaucoup l'entreprise, j'aimais beaucoup le président à l'époque, Peter Marsh, qui était un homme exceptionnel. Yves Langelier, qui était le directeur des ventes à l'époque, il, sachant que moi, ça ne m'intéressait pas de m'en aller de nuit, donc je considérais quitter. J'étais un excellent employé. Là, je travaillais fort, j'aimais ce que je faisais, j'aimais mon métier, j'aimais le domaine. Fait que, il m'a offert, écoute, il y a un poste qui ouvre au ventre. C'est pas facile, c'est pas. Ça ouvre d'autres possibilités, mais il faut que tu travailles fort, puis il faut que. Je me suis dit, écoute, bien, je peux continuer à faire ce que je fais dans un monde inconnu, ou je peux faire quelque chose d'inconnu dans un monde que je connais.
Vrai.
J'ai pris la deuxième option, qui était plus rassurante pour moi. Sachant qu'à la tête, comme je dis, il y avait un homme exceptionnel, hein, Peter Marsh, pour qui j'avais énormément de respect. Fait que de là, j'ai fait une carrière en vente où ça a très bien été pendant des années. Jusqu'en 2001, quand Peter Marsh est décédé assez subitement, suite à un cancer foudroyant, Yves Langelier et moi, on a acheté les actions. Dans le fond, les actions qui nous manquaient, parce que Peter Marsh avait été associé en cours de route.
Okay.
Puis, c'est un peu comme ça qu'on a perpétué la petite histoire.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!